Chapitre 125, où il est prouvé que l'ouïe n'est pas le sens le moins précieux. Vous souvenez-vous, cher lecteur, de cette charmante petite chambre toute tendue de perse qu'habitait à certaines heures Madame de Marande et dans laquelle nous avons eu l'indiscrétion de vous faire pénétrer. Si vous avez été amoureux, vous en avez gardé le souvenir. Si vous êtes amoureux encore, vous en avez conservé le parfum. Eh bien, c'est dans cette chambre, dans ce nid, dans cette chapelle de l'amour, que nous allons vous introduire encore, sans crainte de vous déplaire, amoureux présent et amoureux passé. C'est le soir même de la rentrée de Madame de Marande à Paris. Madame de Marande, usant du droit que lui a conféré son mari et que celui-ci ne lui a point retiré, depuis que, dans la nouvelle combinaison ministérielle, le portefeuille des finances lui est échu, cause amoureusement avec notre ami Jean Robert, qui, assis ou plutôt à genoux, nous avons dit que cette chambre était une chapelle, devant la divinité du lieu, lui raconte une de ces longues et tendres histoires que tous les amoureux racontent si bien que l'oreille de la femme qui aime ne se lasse jamais de les entendre raconter. Au moment où nous vous introduisons dans le sanctuaire, Jean Robert enveloppe de son bras la taille fine et cambrée de la jeune femme, et les yeux sur les yeux, comme si ce n'était point assez de lire sur le visage, et comme s'il voulait lire jusqu'au fond du cœur, il lui demande « Quel est à votre avis le sens le moins précieux, mon cher amour ? Tous les sens me paraissent également précieux quand vous êtes là, mon ami. Merci, mais n'en est-il pas, à votre avis, cependant, de plus ou moins précieux l'un que l'autre, ou les uns que les autres ? Si fait, il y en a un qui ne fait point partie des cinq sens, mais que j'ai découvert, moi. Lequel, cher Christophe Colomb du pays du Tendre ? Celui qui fait que, quand je vous attends, mon bien-aimé, je ne vois plus, je n'entends plus, je ne respire plus, je ne sens plus, je ne touche plus, le sens de l'attente, en un mot, voilà celui qui me paraît moins précieux que les autres. Vous m'avez donc attendu, vraiment ? Ingrat, est-ce que je ne vous attends pas tous les jours ? Chère Lydie, si vous disiez vrai, Dieu de bonté, il en doute. Non, mon amour, je ne doute pas, je redoute. Et que pouvez-vous redouter ? Ce que redoute l'homme parfaitement heureux, l'homme qui n'a plus rien à désirer, plus rien à demander au ciel, pas même le ciel, tout. Poète, dit coquettement Madame de Marande, en effleurant de ses lèvres le front de Jean Robert, vous vous souvenez de votre aïeul Jean Racine ? Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. Eh bien, soit, je crains Dieu et n'ai point d'autre crainte, mais quel est votre Dieu à vous, mon cher ange ? Toi, dit-elle. Jean Robert, à ce doux aveu, l'étreignit encore plus tendrement. Ah, moi, lui répondit Jean Robert en riant, moi, je ne suis que votre amoureux, mais votre amant véritable, votre Dieu réel, Lydie, c'est le monde. Et comme à ce Dieu-là vous sacrifiez plus de la moitié de votre vie, il en résulte que je suis une de vos victimes. Ah, parjure, renégat, blasphémateur, s'écria la jeune femme en se reculant, qu'est-ce donc que le monde pour moi sans vous ? Vous voulez dire, belle amie, que suis-je pour vous sans le monde ? Il persiste, dit Madame de Marande en faisant un nouveau mouvement de retraite. Oui, ma bien-aimée, je persiste, oui. Oui, je crois que vous êtes ultramondaine et que, dans un quadrille, dans une valse, fascinée, enlevée, ravie, entraînée, vous ne pensez pas plus à moi qu'à l'un des atomes de poussière soulevés par vos petits pieds de satin. La valse vous plaît, elle vous sied, et vous lui seyez à merveille. Mais n'est-ce pas un supplice horrible pour moi, soit de vous voir, soit de vous savoir, étreinte, haletante, les bras, le cou et les épaules nues, par une vingtaine de fats dont vous vous moquez sans doute, mais qui, dans le moment où vous vous livrez à eux, vous possèdent en pensée ? Oh, continuez, continuez, dit Madame de Marande, en le regardant avec amour, car la jalousie du jeune homme le ravissait. Vous me trouvez injuste, égoïste peut-être, continua en effet Jean Robert. Vous vous dites, je vais au-devant de votre pensée, que mes succès de théâtre ou de roman valent bien comme distraction vos succès de soirée. Hélas, mon ami, ce n'est point la virginité de mon âme que je montre au public, comme vous lui montrez, vous, le trésor virginal de vos épaules. C'est ma pensée, ma réflexion, mon observation, mon étude. Le monde me montre ses blessures, et je tâche, sinon de les guérir, au moins de les signaler à nos législateurs, qui sont à la société ce que les médecins sont au corps. Mais vous, Lydie, c'est vous, tout entière, que vous abandonnez à la foule. Les fleurs, les perles, les rubis, les diamants dont vous enchâssez votre beau corps sont autant de pierres aimantées pour attirer le regard. Ne vous ai-je pas vu 10 fois vous préparant pour le bal? On eût dit que vous partiez pour la conquête d'un royaume. Jamais capitaine ne s'embarquant pour guerroyer, jamais Guillaume de Normandie sur sa nef, jamais Ferdinand Cortès brûlant ses vaisseaux, ne fit mieux son plan de bataille, et voilà pourquoi je persiste à douter, malgré les preuves incommensurables que vous me donnez de votre amour. « Je t'aime, dit madame de Marande en l'attirant à elle et en l'embrassant ardemment. Voilà ma réponse. » « Oui, tu m'aimes, reprit le poète, tu m'aimes beaucoup, mais en amour, beaucoup ne signifie pas même assez. »« Écoute, reprit-elle gravement, parlons raison, une fois n'est pas coutume. Crois-tu qu'il y ait au monde une femme du monde jouissant d'une liberté égale à la mienne ? Non, certes, mais laisse-moi continuer et ne m'interromps pas. » La raison est un oiseau sauvage, l'ombre d'un bruit effarouche. Je disais donc que pour une femme mariée, je jouissais de la liberté la plus illimitée dont une femme pût jouir. Or, en échange de cette liberté, sais-tu la seule chose que mon mari me demande ? Rien que d'être une maîtresse de maison agréable, rien que d'être une femme du monde accomplie. Sais-tu ce qu'il exige quand il arrive ? Un visage souriant et gracieux qui le repose de ses chiffres et de ses calculs. Sais-tu ce qu'il exige quand il s'en va ? Un serment de main fraternelle qui lui donne la certitude qu'il laisse une amie dans son intérieur. Je me suis donc lancé à toute voile dans cet océan qu'on appelle le monde, et j'ai fait de mon mieux pour naviguer entre les écueils. Un soir, au clair de lune, j'ai aperçu à l'horizon un beau pays argenté dont toutes les fleurs étoilées m'attiraient. J'ai crié « Terre !» J'ai abordé, et en mettant le pied sur la rive, j'ai remercié Dieu, car je retrouvais le pays de mes rêves, et ce pays était habité par toi. « Oh, mon amour !» murmura Jean Robert en l'embrassant et en secouant la tête. « Laisse-moi achever, » dit-elle en le repoussant doucement. En me retrouvant dans ce beau pays de mes rêves, ma première pensée a été de ne plus t'abandonner. Mais l'océan était là, l'avide océan qui ne voulait point lâcher sa proie, comme vous le dites, vous autres poètes. Il m'attirait, une vague de soie, de dentelle et de satin me criait « Reviens parmi nous, sinon pour toujours, du moins de temps en temps, si tu veux conserver ta liberté ». Et je suis revenu chaque fois que cette voix impérieuse m'a rappelé. Je suis revenu payer mon tribut. Je le paie en pleurant, mais c'est ma liberté que j'achète. Voilà ma confession, et je l'aurais achevée quand j'aurais dit à un poète misanthrope ces 3 vers d'un poète plus misanthrope que lui. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande. La parfaite raison fuit toute extrémité. « Ah, tais-toi, je t'aime !» s'écria Jean-Robert avec passion. « Soit, » dit-elle, en se laissant embrasser sans rendre les baisers que Jean-Robert lui donnait, et comme conservant encore contre lui un fond de rancune. Mais puisque nous sommes d'accord là-dessus, revenons à notre point de départ. Vous me demandiez quel était le sens le moins précieux, et je vous répondais, en le créant pour vous plaire, que c'était le sens de l'attente. Que répondez-vous à cela ? Rien. Je continuerai à dire rien si vous continuez à dire vous. « Eh bien, je vous dis tu, Ah, ce n'est point assez. Quand je t'ai adressé cette question, tu posais tes lèvres sur mon front, et c'est en songeant à ce demi-baiser que je te demandais quel est le sens le moins précieux, ou le plus inutile, ou le plus superflu. Avant tout, demande-moi pardon de m'avoir dit que dans le monde je m'abandonnais à chacun, et je t'absoudrai. Ah, je le veux bien, à la condition que tu me diras qu'en abandonnant le corps, la pensée reste à moi. Une étreinte folle fut la réponse de la charmante femme. Ah, tiens, dit Jean-Robert, quand je t'embrasse, je te vois, je te touche, je te sens, je te respire, mais je ne t'entends pas, puisque mes lèvres sont sur tes lèvres, et que nulle parole ne pourrait exprimer ce que j'éprouve. C'est donc l'ouïe qui, en cette circonstance, est le sens le moins précieux. Non, non, dit-elle, n'avance point une pareille hérésie. C'est un sens aussi précieux que les autres, puisqu'il me permet d'entendre tes chères paroles. Madame de Marande avait raison en disant que l'ouïe était un sens aussi précieux que les autres. Ajoutons qu'en cette circonstance, il allait devenir un sens plus précieux que les autres. En effet, tout en marivaudant, tout en se regardant, tout en s'embrassant, nos deux amoureux n'avaient pas remarqué, les amoureux ne sont point parfaits, que de temps en temps la tenture de l'alcôve s'agitait comme sous le souffle d'une porte entrebâillée. Or, à cette agitation, il n'y avait aucune cause apparente, du moins, la porte de l'alcôve étant hermétiquement fermée. Seulement, en appelant à leur aide le sens de la vue, et en regardant derrière ces rideaux, nos amoureux eussent vu un homme, qui, tapi dans la ruelle, faisait tous ses efforts pour combattre les crampes que lui donnait une position gênée, et qui ne paraissait y réussir que médiocrement. Mais il arriva qu'au moment où Jean-Robert clôturait la discussion sur les six sens par six baisers, l'homme qui était dans la ruelle, soit que les baisers le rendissent chagrin, soit que la position dans laquelle il se trouvait lui parut démesurément pénible, l'homme de la ruelle, disons-nous, risqua un mouvement qui fit tressaillir Madame de Marande. Jean-Robert, comme pour prouver jusqu'au bout son paradoxe sur le sens de l'ouïe, n'entendit rien ou affecta de ne rien entendre en voyant tressaillir Madame de Marande. Qu'avez-vous, mon amour? Lui demanda-t-il. Tu n'as pas entendu? Dit en frissonnant Madame de Marande. Non. Écoute, reprit-elle en tendant l'oreille du côté du lit. Jean-Robert prêta l'oreille, mais n'entendant rien, il reprit les mains de la jeune femme et y appuya de nouveau ses lèvres. Un baiser est une musique, 100 baisers sont une symphonie. La voûte de la chapelle retentissait de 1 000 baisers. Mais si la raison est un oiseau facile à effaroucher, ainsi que le disait un instant auparavant Madame de Marande, l'ange des baisers s'effarouche bien plus vite encore. Le bruit qui avait fait tressaillir la jeune femme parvint de nouveau à ses oreilles, et cette fois lui fit pousser un cri. Jean-Robert avait entendu cette fois, et se levant d'un bond, il alla droit au lit d'où le bruit lui semblait venu. Au moment où il s'élançait, le rideau s'agita plus vivement. D'un premier bond, il avait été au lit, d'un second, il l'enjamba, et il se trouva face à face avec Monsieur Laurédan de Valgeneuse. « Vous ici ? » s'écria Jean-Robert. Madame de Marande se leva en frissonnant. À son immense étonnement, elle reconnut à son tour le jeune homme déjà reconnu par Jean-Robert. On se souvient des recommandations paternelles que M. de Marande avait faites à sa femme au sujet de Monseigneur Coletti et M. de Valgeneuse. Autant le jeune poète lui paraissait l'honnêteté même en matière amoureuse, autant l'évêque et le débauché lui semblaient compromettants. Il en avait charitablement averti Madame de Marande, et la jeune femme, à cette demande de son mari, vous plaît-il? Avait répondu, il m'est parfaitement indifférent. On se rappelle aussi que dans le chapitre intitulé Causerie conjugale, le banquier avait dit, en parlant de Monsieur Laurédan de Valgeneuse, quant à ses succès, il paraît qu'ils sont limités aux femmes du monde, et que lorsqu'ils s'adressent à ce que l'on appelle tout simplement des filles du peuple, malgré l'assistance généreuse que prête en ces circonstances Mademoiselle de Valgeneuse à son frère, il est quelquefois obligé d'employer la violence. Et en effet, on se rappelle la part que mademoiselle Suzanne de Valgeneuse avait prise à l'enlèvement de la fiancée de Justin. On va voir que la complaisante sœur ne prêtait pas seulement son assistance aux enlèvements des filles du peuple. Elle avait une femme de chambre, grande et belle fille, que nous avons déjà vue ouvrir à Jean-Robert la porte du pigeonnier de madame de Marande. Cette fille, nommée Nathalie, lui était entièrement dévouée. Or, un soir que M. de Valgeneuse avait fait part à sa sœur de l'amour qu'il ressentait pour madame de Marande, mademoiselle Suzanne avait cherché une occasion de mettre auprès de la femme du banquier une créature qui pût, le cas échéant, introduire M. de Valgeneuse dans la place. Cette occasion s'était présentée. À un retour des eaux, madame de Marande avait demandé de tous côtés une femme de chambre, et mademoiselle de Valgeneuse avait généreusement offert la sienne. C'était Nathalie. On ignore assez généralement la puissance des femmes de chambre sur l'esprit de leur maîtresse. Nathalie ne peignait pas un des cheveux de madame de Marande sans lui raconter un des hauts faits de monsieur de Valgeneuse. Madame de Marande, qui tenait cette fille de la sœur du héros de tant de prouesses amoureuses, ne s'étonnait pas d'en entendre dire tant de bien et ne voyait que reconnaissance là où il n'y avait au contraire qu'instigation préméditée. Mais par les scènes précédentes et surtout par celles que nous venons de mettre sous les yeux du lecteur, on connaît bien l'amour réel que madame de Marande avait pour Jean-Robert, et il est inutile de dire que les admirations de mademoiselle Nathalie n'avaient eu aucune influence sur elle. Ce soir-là, M. de Valgeneuse, poussé à bout par l'indifférence de madame de Marande, avait résolu de tenter un de ces actes audacieux qui réussissent parfois. Nathalie l'avait caché dans l'alcôve, et il était là depuis 2 heures, assistant au tendre marivautage de Jean-Robert et de madame de Marande, lorsque celle-ci avait entendu le bruit qui l'avait fait frissonner. Certainement, s'il est un supplice après celui de n'être pas aimé, c'est la certitude que ce cœur, fermé pour vous, s'ouvre pour tous les autres. Ce supplice devient une torture quand on entend ces mots cruels adressés à un autre entre 2 baisers. « Je t'aime. » Un instant, M. de Valgeneuse avait eu l'idée d'apparaître tout à coup aux 2 amoureux comme une tête de méduse. Mais à quoi aboutirait cette apparition? À un duel entre Jean-Robert et M. de Valgeneuse. Or, en supposant pour le gentilhomme la meilleure chance, celle où le poète serait tué, la mort de Jean-Robert n'était pas un moyen de se faire aimer de madame de Marande. Tandis qu'au contraire, venir dire le lendemain à la jeune femme « J'ai passé la soirée derrière votre lit, j'ai tout vu, tout entendu, acheté ma discrétion à tel prix », laisser une chance à ce que madame de Marande, effrayée pour son amant ou pour son mari, accorda à la menace ce qu'elle refusait si obstinément aux plus tendres instances. Ce fut ce qui détermina M. de Valgeneuse. Il ne songeait donc plus qu'à se retirer, ayant vu et entendu tout ce qu'il y avait à voir et à entendre. Mais on ne se tire pas facilement d'une ruelle, et l'on a beau marcher à pas de loup, lorsqu'on porte des bottes vernies, le parquet crie, les rideaux remuent, et bruit et mouvement troublent le silence harmonieux d'une scène d'amour. C'est ce qui était arrivé. Monsieur de Valgeneuse, en voulant se retirer, avait fait craquer le parquet et remuer les rideaux. Jean-Robert, s'élançant donc et reconnaissant le jeune gentilhomme, s'était écrié « Vous ici !»« Oui, moi !» répondit de Valgeneuse, qui, en face d'un homme et par conséquent d'un danger, se redressa fièrement. « Misérable !» dit Jean-Robert en le saisissant au collet. « Doucement, monsieur le poète, » dit de Valgeneuse, « il y a dans cette maison, à quelques pas de nous peut-être, un tiers intéressé qui pourrait bien entendre notre contestation, ce qui, selon toute probabilité, chagrinerait madame. »« Infâme, » dit à voix basse Jean-Robert. « Encore une fois, doucement, » répéta monsieur de Valgeneuse. « Oh, que je parle bas ou haut, » dit Jean-Robert, « je vous tuerai. » »« Nous sommes dans la chambre d'une femme, monsieur. » « Alors sortons-en. Inutile, pas de bruit, vous savez où je demeure, n'est-ce pas? Si vous l'oubliez, j'irai vous le rappeler, je me tiens à votre disposition. »« Et pourquoi pas tout de suite ? Oh, tout de suite, il fait nuit noire, vous n'y songez pas. Il faut y voir clair pour bien faire ce que l'on fait. Et puis, tenez, voici Madame de Marande qui se trouve mal. En effet, la jeune femme était tombée sur un fauteuil. Soit, monsieur, à demain, dit Jean-Robert. À demain, monsieur, et avec grand plaisir. Jean-Robert enjamba le lit de nouveau et se jeta aux genoux de Madame de Marande. Monsieur Laurédan de Valgeneuse s'élança dans le couloir par la porte de l'alcôve qu'il ferma derrière lui. Pardon, pardon, ma Lydie bien-aimée, dit Jean-Robert en l'entourant de ses bras et en l'embrassant vivement. Et que te pardonnerai-je? Demanda-t-elle. Quel crime as-tu commis? Oh, cet homme, comment était-il là? Sois tranquille, tu ne le reverras plus, s'écria énergiquement Jean-Robert. Oh, mon bien-aimé, dit la pauvre femme en serrant étroitement le poète contre son cœur, ne va pas exposer ta vie précieuse contre la vie inutile de ce scélérat. Ne crains rien, ne crains rien, Dieu sera pour nous. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. Tu vas me jurer, mon ami, de ne pas te battre avec cet homme. Comment veux-tu que je te jure cela? Si tu m'aimes, jure-le. Mais c'est impossible, comprends donc, dit Jean-Robert. Tu ne m'aimes pas, alors, dit-elle. Je ne t'aime pas, oh mon Dieu! Mon ami, dit Madame de Marande, je crois que je vais mourir. Et en effet, la vie de la belle jeune femme semblait suspendue. Elle ne respirait plus, elle était pâle et, pour ainsi dire, inanimée. Son état alarma Jean-Robert. Eh bien, tout ce que tu voudras, dit-il. Tu feras ce que je voudrai? Oui. Tu le jures? Sur ma vie, dit Jean-Robert. Oh, j'aimerais mieux que tu jurasses sur la mienne, dit Madame de Marande. J'aurais au moins l'espoir de mourir si tu manquais à ta parole. Et en disant ces mots, la jeune femme lui jeta les bras autour du cou, le serra à l'étouffée, l'embrassa violemment, et pendant un moment, leurs deux cœurs planèrent dans de si doux espaces qu'ils oublièrent l'horrible scène qui venait de se passer.